Jeanne d'Arc, la radio des ados sur ACX.
Connaissez-vous les alpagas ? Non. Bah justement, nous avons invité François-Xavier, éleveur d'alpagas en Corrèze. Il a commencé avec moins de 10 alpagas, et maintenant, il en a 22. Sachez qu'il existe plus de 16 couleurs différentes de robes d'alpagas, de blanc pur à noir pur. Ils se servent de leurs fibres pour la tisser. Ils les tondent chaque année et récoltent entre 1 kg et 1,5 kg par alpaga. Tout un univers à découvrir, mais qui commence par une première question. Qu'est-ce qu'un éleveur d'alpaga ?
Un éleveur d'alpaga, c'est un agriculteur, comme les autres, sauf que plutôt que d'élever des vaches ou d'autres animaux, des cochons ou des poules, il élèvera des alpagas. Voilà. Donc c'est vraiment un métier d'élevage comme un autre, en fait. On a des animaux dont on doit s'occuper le matin, le soir, surveiller que tout se passe bien dans la journée, faire les soins, etc. C'est vraiment un métier d'éleveur, en fait.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Alors, j'ai choisi ce métier très tardivement, parce que je n'ai pas toujours été éleveur d'alpaga. Hein. On ne naît pas éleveur d'alpaga. En fait, au départ, j'ai fait une école des beaux-arts, et puis j'ai fait de l'architecture pendant presque 26 ans, en fait. Oui, plus de 25 ans, en tout cas. Et en fait, j'ai toujours eu envie de faire de la laine, en fait, de produire de la laine. Et quand j'ai eu 18 ans, les parents n'étaient pas d'accord. Ils ont dit non, ce n'est pas un métier. On ne gagne pas sa vie, c'est pas une bonne idée, donc tu feras plutôt de l'architecture. Voilà. Mais donc j'ai fait de l'architecture pendant 26 ans, mais l'envie d'élevage a toujours été présente. Et l'envie de faire de la laine surtout. Et c'est comme ça que, arrivé à presque 45 ans, je me suis dit non, mais maintenant la vie elle est trop longue pour faire un seul métier, il faut que je fasse autre chose, j'ai envie de faire de la laine. Voilà comment on arrive à devenir éleveur d'alpaga et à faire de la laine.
Faut-il des études spéciales pour pratiquer ce métier ?
Alors, c'est une excellente question. Et je pense qu'il faut un minimum de connaissances et de renseignements avant même de prendre un animal quel qu'il soit. Tu vois, je suis contacté par beaucoup de gens qui disent « Oh, moi, je voudrais acheter un alpaga. Est-ce que vous en avez à vendre ?» Et je leur demande toujours « Mais est-ce que vous êtes déjà renseigné sur les besoins de cet animal ?» Parce que c'est un animal très spécifique qui n'a pas les mêmes besoins qu'un mouton une chèvre. Et du coup, oui, il faut faire un minimum de formation, s'intéresser un minimum aux besoins essentiels de cet animal pour pouvoir s'en occuper correctement. Donc oui, il y a des formations qui existent, tout à fait.
Comment êtes-vous formé ?
Alors nous, on a été formés par des éleveurs qui faisaient ce métier depuis déjà une dizaine d'années et qui organisent des stages, en fait, de formation pour les gens désireux d'apprendre à s'occuper de ces animaux. Voilà, donc ça va depuis comment est-ce qu'on met un licol sur l'animal, comment on le fait marcher à la longe, comment est-ce qu'on peut lui couper les ongles, comment est-ce qu'on peut faire un certain nombre de soins dont il a besoin, qui sont essentiels, la nourriture, enfin voilà, ça passe par les médicaments aussi, bien sûr, parce que ce sont des animaux qui doivent être vaccinés, comme vos chiens ou vos chats, hein, ils ont des vaccins, des vermifuges, etc. Ça va être la même chose pour l'alpaga, et donc il y a des formations pour apprendre tout ça.
Pourquoi avez-vous choisi les alpagas ?
Alors, au départ, moi, c'était du mouton. Hein, je voulais faire de la laine, mais mon mari, quand on est arrivé en Corrèze et que je lui ai parlé de ce projet de laine, il m'a dit « mais il ne faut pas faire du mouton, il faut faire l'alpaga parce que c'est la plus douce des fibres ». C'est une laine assez exceptionnelle, en fait, qui est réputée par sa très très grande douceur, due tout simplement à la structure de la fibre. Une fibre, c'est une succession d'écailles, en fait, comme nos cheveux d'ailleurs. Et plus les écailles vont être petites et plus elles vont être arrondies, plus on aura une sensation de douceur en les touchant. Et en fait, l'alpaga, il a de toutes petites écailles rondes. C'est la plus douce des fibres qui existent, en fait. Voilà pourquoi l'alpaga et pas autre chose.
Qu'est-ce qu'un alpaga ?
Ah, excellente question. Alors, l'alpaga, il fait partie de la famille des camélidés. C'est la famille des chameaux et des dromadaires, en fait. Donc, ils sont cinq dans la famille. Il y a le chameau, le dromadaire, le lama, l'alpaga et la vigogne. Grande famille, donc, des camélidés. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec les chèvres et les moutons. C'est vraiment pas du tout le même animal, ni au point de vue biologique, ni au point de vue du nombre d'estomacs, ni du comportement. Cet animal, il est originaire de la cordillère des Andes. Donc, c'est toute la chaîne, en fait, de montagnes qui est au Pérou, Bolivie, Chili, en fait. Voilà. Donc, il vient quand même de très, très loin. Après, il est domestiqué déjà depuis 5700 ans avant Jésus-Christ. Donc on n'est pas du tout devant un animal sauvage, même s'il vient de terres qui sont relativement sauvages. En fait, il est domestiqué et aujourd'hui, il a besoin de l'homme pour vivre. Il ne peut plus vivre à l'état sauvage dans la nature, comme une vache d'ailleurs. On ne pourrait pas laisser une vache toute seule dans la nature. Elle a besoin que l'homme s'occupe d'elle, en fait. Ben, c'est exactement pareil avec l'alpaga. Voilà.
Est-ce qu'un alpaga crache ?
Alors oui, le crachat, ça fait partie, ça c'est une question que beaucoup de visiteurs se posent, mais effectivement, l'alpaga va cracher, mais ça fait partie du langage en fait. Le langage principal de l'alpaga, c'est le humming en fait, c'est un petit mot anglais qui veut dire fredonner. Donc ils vont faire des petits sons. Voilà, donc d'abord c'est un petit son, en plus ça peut taper du pied sur le sol quand c'est pas content. Il y a tout le langage des oreilles, les oreilles dressées à la verticale, qui, comme des petits radars, écoutent, je suis curieux, je suis attentif. Les oreilles couchées derrière, qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu craintif. Et puis le crachat, c'est vraiment le langage ultime, dégage, tu m'ennuies, va-t'en. Voilà. Et c'est un langage qu'ils vont utiliser entre eux. S'ils ont été bien élevés, ils vont cracher entre eux et jamais sur nous. Contrairement au lama qui, lui, aura tendance plus à cracher sur l'homme, parce que comme c'est un animal qui va servir l'homme, le lama, il va aider à porter des charges sur son dos dans la montagne. Tout petit, on va l'imprégner, c'est-à-dire qu'on va le manipuler pour l'habituer à la présence de l'homme. Et du coup, malheureusement, il ne fait plus la distinction entre l'homme et sa propre espèce, et le lama, et donc il va cracher beaucoup plus facilement sur les humains. Mais alpaga, il crache entre eux, mais il ne crache pas sur nous, en fait.
Place à la musique avec Ado Radio, Jeanne d'Arc sur ACI. Bring me down, can't none. Ado Radio Jeanne d'Arc sur ACX.
Comment communiquent les alpagas ?
Alors, comment ils communiquent ? Entre eux, il y a beaucoup de... Ils échangent énormément entre eux. Voilà, c'est vraiment des animaux. Ben, un petit peu comme vous, dans la cour de récréation, vous avez des échanges, vous vous interpellez les uns et les autres, etc. Mais l'alpaga, ça va être la même chose. Il y a des alpagas qui s'entendent bien entre eux. Il y a des amitiés plus fortes avec certains qu'avec d'autres. Il y en a qui se disputent tout le temps. Voilà. Il y en a qui ont un caractère plus sympathique, d'autres qui ont un caractère plus désagréable. Voilà. Ah ben, exactement comme les humains, en fait. Hein. C'est. Mais c'est très amusant parce que j'en ai 22. Et donc, les mâles sont séparés des femelles, mais dans chacun des groupes, tu vois bien qu'il y a ceux qui s'entendent bien entre eux, ils restent entre eux, en fait. Et il y a comme deux ou trois petits groupes dans le troupeau, en fait. Voilà.
Que mangent les alpagas ?
Alors, très bonne question. L'alpaga est un herbivore, donc il va manger de l'herbe. Et c'est très important pour lui de manger de l'herbe fraîche et de l'herbe sèche, du foin, toute l'année. Donc, ils vont brouter dans les prés tous les jours de l'année. Ce ne sont pas des animaux qu'on va enfermer dans les bâtiments pendant les 3 ou 4 mois d'hiver. Mes animaux sont dehors, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, absolument tous les jours de l'année. Voilà. Et pour leur équilibre alimentaire, pour la digestion, ils sont obligés de manger de l'herbe fraîche et de l'herbe sèche. Donc en plus, ils ont du foin, même en plein été, en fait. Et à côté de ça, que les terres dont ils sont originaires sont très riches en sels minéraux, sélénium et autres oligo-éléments, qu'on n'a pas dans nos terrains ici. Donc on est obligé de leur donner des compléments alimentaires spéciaux pour les petits camélidés. Voilà, qui sont effectivement des compléments alimentaires avec tout ce dont ils ont besoin qu'on ne trouve pas chez nous.
Faites-vous reproduire vos alpagas ?
Oui, bien sûr. Oui. On est arrivé, on avait 8 animaux. J'ai racheté un étalon, c'était en 2019. Et aujourd'hui, on est à 22 animaux. Tu vois, donc effectivement, la reproduction, ça se passe bien. Après, je ne vis pas de la vente de mes animaux. Donc, je ne fais pas beaucoup de reproduction. Le but, c'est juste de renouveler le cheptel et d'avoir effectivement régulièrement des petits. Mais 3, 2, 3, 4 par an, grand maximum, ça me suffit. Je ne fais pas reproduire toutes mes femelles tous les ans, en fait. Voilà.
Existe-t-il un vétérinaire pour les alpagas ?
Alors ça, c'est une très très bonne question. Donc c'est un animal qui est très mal connu des vétérinaires parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ce n'est pas un animal sur lequel les études de vétérinaires sont orientées. Mais on a la chance d'avoir sur le secteur ici des vétérinaires qui se sont intéressés à l'animal. Donc déjà, Madame Van Dendel qui connaissait l'animal de Belgique, puisqu'elle est arrivée de Belgique et qu'elle s'occupait de l'alpaga en Belgique. Donc elle connaissait l'animal et donc elle était là pour nous aider. Et puis il y a le cabinet de Morgane à Riouzel, effectivement, où Morgane s'est renseignée, s'est documentée, etc. Et nous aide beaucoup dans on travaille avec deux vétérinaires, en fait. Voilà. Pour des petites choses, c'est plutôt Michel. Pour les choses un peu plus lourdes, comme des opérations et des choses comme ça va être Morgane, en fait. Voilà. Et pour les analyses médicales aussi, quand il faut analyser des croûtes, parce qu'il y a des petits problèmes de peau ou des choses comme ça pour savoir s'il y a de la gale ou si c'est autre chose. Du coup, ça, c'est aussi Morgane qui va pouvoir étudier et faire les analyses, les prélèvements.
Que rapportent les alpagas ?
L'alpaga est élevé essentiellement pour la grande qualité de sa fibre, d'accord ? Donc sa laine, en fait. On les élève essentiellement pour récolter la laine. Alors, en ce qui concerne le lait, pas du tout. On ne fait pas de fromage et on ne va pas pouvoir le consommer parce qu'ils ont à peine assez de lait pour les petits, en fait. On est même obligé de les complémenter pour être sûr qu'ils aient du lait en suffisance pour nourrir leurs petits. Donc on ne va jamais faire de fromage, ni de savon, ni je ne sais pas quoi avec le lait d'alpaga. C'est vraiment pour la consommation des petits uniquement. Donc ici en Europe, l'abattage et la consommation de la viande sont interdits. Alors au Pérou, au Bolivie et Chili, ils n'ont pas de vaches, en fait. Donc du coup, sur les hauts plateaux andins, en fait, ils n'ont que ça comme animal. Donc là-bas, c'est leur animal d'élevage. Ils vont effectivement les tuer et les manger. Chez nous, ici en Europe, c'est pas autorisé. Donc aujourd'hui, on élève nos animaux vraiment que pour la fibre, en fait.
Ado Radio, Jeanne d'Arc sur ACI.
I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what daddy always tell you, straighten up little soldier, stiffen up that upper lip, what you crying about, you got me.
Haley, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone. But I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I can see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world, when it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls. Two little beautiful girls, looking puzzled in a daze. I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see, daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us. I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream.
Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up a lip up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright.
It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block, and your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart, and it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat one bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was a rolling stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are, and daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here. I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment.
Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Stiffen that up a lip up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to you and make him eat every carrot. Don't do it, Dad.
Ado Radio, Jeanne d'Arc sur ACX.
Que devient cette laine ?
Alors la laine, il y a différentes possibilités. Soit des éleveurs m'envoient leurs fibres et récupèrent le fil qu'ils vont commercialiser de leur côté, c'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes tricoter ou vendre la laine à des gens qui tricotent, voilà. Et puis il y a un autre circuit qui est en fait, qui sont des ateliers de transformation, ateliers de tissage ou grandes maisons de production de vêtements un peu chic, qui effectivement nous commandent du fil en fait pour pouvoir faire des vêtements en 100% alpaga produits en France. Voilà. Donc on a deux types de réseaux en fait. C'est vraiment les éleveurs qui font transformer, qui vont récupérer leur fil, et puis les grandes maisons qu'on peut alimenter en produisant du fil.
Pouvez-vous reproduire le cri d'alpaga ?
Le cri de l'alpaga, en fait, c'est pas un cri, c'est vraiment, il fredonne. Donc c'est un petit son qui fait « hum, 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 hum ». Donc effectivement, en fait, c'est comme ça qu'ils vont communiquer entre eux. Et même si je ne parle pas alpaga, à la tonalité qu'il donne, en fait, on comprend s'il exprime quelque chose de plutôt doux, de plutôt triste, ou voilà, d'accord ? Ou de plutôt joyeux aussi, parce que parfois ils sont joyeux, d'ailleurs ils font des petits bonds, et en chassant l'arrière-train, comme ça ils sautent en jetant leurs pattes en arrière, c'est très rigolo. Voilà, ça c'est vraiment le fredonnement, c'est le langage principal de l'alpaga. Alors ils le font surtout le soir quand, ou le matin quand on est dans les bâtiments. Dans les prés, c'est plus rare de les entendre. Ou alors les mamans qui appellent les petits. Ça, c'est vrai, ou les petits qui appellent les mamans. Ils ont un lien auditif qui est très important, en fait, les alpagas.
Aimez-vous vos alpagas ?
Oh, que oui. Avec, je pense que comme tout éleveur, on aime nos animaux, tu sais. Oui, j'aime beaucoup mes animaux et je ne voudrais pas qu'il leur arrive quoi que ce soit. C'est pour ça que je fais très attention. Et c'est pour ça que j'ai deux chiens aussi pour les protéger. Voilà, effectivement.
Est-ce que les conditions climatiques changent la laine de l'alpaga ?
Oui, ben c'est une excellente question. Effectivement, les conditions climatiques vont jouer sur la qualité, surtout sur la longueur de la fibre, en fait. Donc, on dit que les fibres poussent à peu près 1 cm par mois. Donc, on peut avoir des pousses de 10-12 cm. Mais vous imaginez bien que quand il fait chaud, forcément, la laine pousse moins vite, en fait. Donc, les conditions climatiques influent effectivement sur la qualité de la fibre. Donc, nous, on arrive à avoir 7, 8, 10 cm, voilà, sur les animaux les plus jeunes, en fait, voilà. Et quand les animaux vieillissent, donc, effectivement, ils ont tendance à avoir des fibres plus courtes et un peu plus grossières, en fait. Le poil se détériore, ben, comme les cheveux des humains, en fait. Hein. Ils ne blanchissent pas, ils gardent leur couleur, mais effectivement, ils sont de moins belle qualité.
Combien de temps vit un alpaga ?
Alors un alpaga va vivre une 20aine d'années en fait. Donc on va pouvoir récolter la fibre pendant une bonne 15aine d'années. Après 15 ans, on nous avait dit, vous allez voir, la fibre se détériore, elle est moins belle. Fabiola, une de nos femelles du troupeau, qui a 16 ans aujourd'hui, elle a toujours une fibre magnifique. Il y a quelques semaines, là, j'ai filé la tonde de l'année dernière, puisqu'on les tond une fois par an. Et en fait, le fil est encore très très beau. Donc voilà, je pense que ça dépend aussi de la qualité de l'animal. Mais bon, 20 ans en tout cas, et la fibre pendant une bonne 15aine d'années, on va garder ça comme référence.
Est-ce que la mort d'un des alpagas influe les autres alpagas ?
Oui, ben alors écoute, c'est une excellente question et je l'ai vécu malheureusement au printemps parce que j'ai perdu un animal qui a eu une péritonite. En fait, il a l'estomac qui s'est crevé à l'intérieur, donc il s'est vidé à l'intérieur de son ventre. Hein. Et Black, c'était un petit mâle castré qui avait un rôle très important dans le troupeau. Parce que quand on sépare les mamans des petits, en fait, on ne les laisse pas tout seuls. Ils sont enfants. Ce ne sont pas encore des adultes, donc ils ont toujours besoin d'un référent adulte. Comme vous, quand vous êtes enfant, on ne vous laisse pas tout seul, en fait. Vous êtes en vacances chez les grands-parents ou vous êtes à l'école avec des professeurs, etc. Et ben donc, c'est pareil. Le mâle castré, en fait, le mâle qui ne peut pas se reproduire, il va servir de tonton et de référent adulte aux petits. Et notre alpaga noir, Black, il avait ce rôle auprès des petits qu'il défendait par rapport aux autres mâles adultes, en fait. Et il avait un rôle protecteur, qu'il jouait très très bien d'ailleurs. Hein. C'était vraiment un très chouette animal. Et c'est vrai que quand il est mort, eh ben, Actarus, Yael, Iago, ils étaient complètement perdus. Voilà, ils l'ont cherché pendant quelques jours. Pourtant, j'avais fait comme on nous l'avait expliqué, c'est-à-dire qu'il faut laisser les autres animaux venir voir l'animal mort pour se rendre compte de ce qui s'est passé, pour qu'ils prennent conscience que l'animal est décédé, mais malgré ça, pendant quelques jours, ils ont continué à le chercher, en fait. On pense toujours que les animaux n'ont pas de sentiments, c'est complètement faux. Les animaux ont du sentiment. Ils savent qu'ils sont les uns par rapport aux autres. Les petits, même à 3 ans, 4 ans, savent encore qui est leur maman, en fait. Donc il y a vraiment... Et je vois Emma et sa fille Iseult. Iseult, elle va avoir 5 ans. Le soir, venu, quand elle rentre dans les écuries, Iseult est toujours couchée à côté de sa maman, en fait. Hein. Donc les animaux ont du sentiment, tout à fait. Et ils sont impactés par la disparition d'un des leurs.
Comment choisissez-vous les prénoms des animaux ?
Alors en fait, il n'y a pas, comme chez les autres animaux, un alphabet national où on est obligé cette année, pour les chiens, c'est la lettre, j'en sais rien, D par exemple, dont tous les animaux vont devoir avoir un nom qui commence par D. Il n'y a pas ça chez les alpagas. Donc du coup, nous, on a commencé en 2017 avec la lettre V. Alors pourquoi la lettre V? Parce qu'on a eu notre toute première naissance en 2017, qui a été une naissance très compliquée avec une maman qui n'avait pas de lait. Et on pensait que le petit n'allait pas pouvoir vivre. Il était né de manière un peu prématurée. Il n'était pas très gros. Donc ça a été très compliqué. Pendant plusieurs semaines, en fait, on a dû vraiment être très très attentif à la progression de poids, etc., de ce petit. Et quand elle a été sauvée, Vincent a décidé de l'appeler Victoire. Voilà. Mais c'est comme ça qu'en 2017, on a commencé avec les V. Et puis on a continué l'alphabet parce qu'on s'est dit que ce sera plus simple pour nous d'avoir un repère. Donc on a fait V, W, X, Y, Z. Et puis on a recommencé à A, B, C, D. Voilà. Et donc en 2024, on était dans la lettre C. Donc on a eu deux petites femelles et un mâle, Circé, Céleste et puis le petit mâle qui s'appelle Casper. Et puis cette année, on sera dans les D. Voilà. Mais il n'y a pas d'alphabet officiel. En fait, chaque éleveur fait un peu comme il veut.
Sachez que parmi les alpagas, il existe deux types de fibres différentes. Les wakaïs ont la toise en haut dense, brillante et frisée. Elles poussent à la verticale par rapport à la peau de l'animal. Les souris, eux, ont une toison soyeuse, tombante et raide, mais reconnaissable par leur forme qui s'apparente à des dreadlocks. Des dreadlocks? Ce sont des sortes de petites tresses autour de la tête pour les humains. Et croyez-le ou non, l'alpaga choisit les endroits où il va faire ses besoins. Il s'y rend systématiquement dès que c'est nécessaire. Un réflexe qui permet de conserver des terrains propres. Ah oui, aussi, c'est toujours bien de le rappeler. L'alpaga est une espèce dotée d'une grande intelligence. Vous trouvez que 9 mois de gestation, c'est long? Dites-vous que la durée de gestation d'une femelle alpaga est de 335 jours, soit 11 mois.
Adoration Jeanne d'Arc, la radio des ados sur ACX.